Le pouvoir d'achat et la structure des prix, c'est un sujet qui revient souvent dans l'actualité, qui fait aussi l'objet d'un séminaire en fin de semaine dernière organisé par Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge de l'économie. De quoi parle-t-on quand on parle pouvoir d'achat et structure des prix? Qu'est-ce qui peut bouger? C'est ce dont nous allons parler dans cette émission avec nos quatre invités. Élise Desmazures, qui est la directrice de l'ISEE, le président de l'autorité de la concurrence, Stéphane Reuterer, le directeur des affaires économiques du gouvernement, John Tschupit, et le président de l'UTCFE-CGC, Christophe Coulson. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, une petite précision en entrée d'émission. Le pouvoir d'achat, on voit ce que c'est à peu près. Je fais vite, mais vous allez me corriger si j'ai tort. C'est la différence, finalement, entre les revenus d'une personne ou d'un couple et l'augmentation et la variation des prix, ce qui définit le pouvoir d'achat. En revanche, c'est peut-être plus compliqué de comprendre ce que c'est que la structure des prix. De quoi parle-t-on, John Tschupit, quand on parle de structure des prix?
En fait, la structure des prix, c'est tout ce qui rentre en ligne de compte et qui permet de définir les prix. Hein. On évoque souvent l'aval et l'amont. Ce qu'il faut voir, et c'est le rôle des pouvoirs publics, c'est justement de travailler sur toutes les composantes de ces structures des prix, qu'on est dans une optique de modération des prix, de lutte contre l'inflation. Donc très concrètement, ça va des prix en amont du fournisseur jusqu'à l'aval et donc le prix au détaillant. Et dans cette composition-là, dans ces composantes, il y a pas mal de choses. Il y a aussi tout ce qui relève de la fiscalité. Et donc, c'est tous les sujets qu'on doit aborder lorsqu'on analyse le prix, donc on analyse la charte de vie et qu'on veut mettre en place des politiques publiques efficaces pour justement préserver le pouvoir d'achat, comme vous l'évoquiez en propos liminaire.
Stéphane Reuterer, l'autorité de la concurrence a scruté la structure des prix un petit peu ?
C'est pas son rôle, mais si vous voulez, quand une autorité de la concurrence démarre et arrive sur un territoire, elle n'est pas forcément saisie par des pratiques anticoncurrentielles, etc. Donc elle fait des avis sectoriels pour avoir une véritable photographie de l'économie. Donc on l'avait fait par exemple en 2018, l'autorité a été créée en 2018, elle l'a fait en 2018 pour les fruits et légumes. Et en 2020, évidemment, elle a apprécier la structure des prix des produits. Donc pour répondre, pour compléter ce qu'a dit le directeur de la DAE, c'est-à-dire concrètement ce qu'on a fait, c'est qu'on a vu qu'un produit était acheté, le prix d'achat. Ensuite, il y avait les frais d'approche. Donc les frais d'approche sont conséquents parce qu'on les avait évalués. Alors sur les produits grande consommation, à peu près 10%, mais c'est une moyenne, évidemment. Ensuite, si on passe par un grossiste, puisqu'en Nouvelle-Calédonie, le circuit est et intermédiaire, donc un grossiste à peu près 15% de frais plus son profit, ensuite ça va au distributeur, il y a à peu près 16% de frais de distributeur, c'est une évaluation moyenne, plus son profit, et puis on rajoute la TGC, et puis après on arrive à un prix final. Voilà, c'est ça la structure de prix. Donc on avait par exemple fait une petite slide de présentation sur un produit qu'on achète 393 francs, il va arriver au consommateur à 1000 francs. Donc, vous voyez, ça c'est la structure de prix qui montre concrètement les ajouts, les coûts supplémentaires du fait de l'importation et de la vente au détail.
Et j'imagine qu'il y a là-dessus du débat pour savoir comment faire baisser aussi la structure, puisqu'il y a beaucoup de choses qui s'ajoutent à un prix de départ. On va en parler dans cette émission. Élise Desmazures, un petit mot quand même sur l'évolution du pouvoir d'achat. J'espère que ma définition était à peu près correcte, le différentiel entre les revenus et l'augmentation des prix. Il a tendance à se contracter, on peut dire ça, depuis quelques mois en Calédonie.
Oui. Alors en fait, à l'Institut de la Statistique, ce qu'on suit, c'est justement le prix de vente, donc le prix d'achat du consommateur. On le suit chaque mois en faisant 23 000 relevés, en fait des calculs à partir de 23 000 relevés, sur la base d'une structure de consommation qui est issue, grosso modo, d'une enquête budget des familles qui a eu lieu en 2019-2020. Donc cette structure, elle nous permet d'identifier quels sont les produits consommés, les produits et les services d'ailleurs qui sont consommés par les Calédoniens. On fait des relevés de prix et ça nous permet de suivre ce qu'on appelle couramment l'inflation. Donc c'est un suivi qu'on va faire mensuellement et qu'on va faire également en ce qu'on appelle en glissement annuel. Par exemple, les derniers chiffres qui sont sortis disent que entre janvier 2024 et janvier 2025, les prix ont augmenté de 1,6%. Donc ça, c'est quelque chose qu'on suit vraiment au mois le mois. Et l'autre partie du pouvoir d'achat, c'est donc les revenus. Là, par contre, on a des informations beaucoup plus tardivement et beaucoup moins régulièrement. Donc ce qu'on a constaté en regardant uniquement le salaire moyen, c'est qu'il avait eu tendance ces derniers temps à augmenter moins vite effectivement que l'inflation. Donc ce qui se traduit par une perte de pouvoir d'achat des Calédoniens. Donc voilà, et sur ce qui s'est passé tout dernièrement, donc on n'a pas de chiffres vraiment sur la perte de revenus des Calédoniens, mais on se doute bien qu'entre les pertes d'emploi, le chômage partiel qui permet tout de même de maintenir un certain niveau de pouvoir d'achat, on a quand même une baisse de revenus. Donc on suppose que le pouvoir d'achat des Calédoniens a plutôt diminué, même si on a des indicateurs qui nous disent que la consommation ne s'est pas effondrée. J'ai envie de dire, ne s'est pas encore effondrée, parce qu'effectivement, c'est tout ce qui va se passer en 2025 en termes d'aide, de reprise économique, etc., qui nous permettra de dire si le pouvoir d'achat va revenir en Nouvelle-Calédonie.
Donc il faudra scruter les semaines et les mois qui viennent pour voir comment se comportent les Calédoniens. On va revenir évidemment sur les mécanismes et peut-être les idées pour faire en sorte que les prix, s'ils ne baissent pas en tout cas, n'augmentent pas. Enfin voilà, quels sont les enjeux qu'il y a derrière. Mais Christophe Coulson, on se rappelle que les syndicats s'étaient réunis en intersyndical Vichère il y a quelques années, qui a eu des grands accords signés, je crois, en 2013, hein, si ma mémoire est bonne.
En
2011, voilà. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et les prix ont continué d'augmenter. Donc il y a vraiment du travail à continuer à faire.
Ouais, ben, bien évidemment, hein, on a quand même réussi certaines choses mettre en place certaines choses qui figurent dans ces accords, et notamment l'autorité de la concurrence, parce que c'est les partenaires sociaux, c'est les syndicats de salariés qui avaient fortement insisté pour que cette autorité soit mise en place en Nouvelle-Calédonie. Et on avait fait, on a fait pas mal de travail, hein, avec les différents gouvernements. Ça date du gouvernement Germain d'ailleurs. Et effectivement, ce qu'ont rappelé mes deux collègues sur la structure des prix, il y a beaucoup de choses à faire, et on avait dénoncé à plusieurs reprises, notamment un nombre trop important d'intermédiaires entre le prix de départ et le prix final. Pour revenir sur le pouvoir d'achat, effectivement, il n'y a pas de hausse de salaire conséquente ces dernières années. Moi, je participe à toutes les NAO de branche, et depuis 3 ans, voire 4 ans maintenant, c'est plus proche du zéro que du 0,1, quoi. On n'arrive pas à négocier des augmentations de salaire. C'est très, très compliqué. Et c'est dû à la situation économique de la Nouvelle-Calédonie. Et je pense que quand on fera le bilan de l'année 2024, on va s'apercevoir qu'effectivement il y a vraiment un gros problème, parce que effectivement il y a des gens qui arrivent à se maintenir dans l'emploi, mais pas avec les mêmes niveaux de salaire qu'ils avaient avant mai 2024.
Pour terminer ce tour un peu général, avant de voir ce qui pourrait faire éventuellement bouger les prix, John Choupit, le gouvernement dispose d'un certain nombre d'outils aussi de contrôle, c'est peut-être bien de le rappeler.
Oui, alors, déjà rappeler, hein, j'ai quelque chose que j'ai l'habitude de rappeler à chaque fois, c'est que la réglementation des prix, c'est l'exception. Le principe, c'est la liberté des prix, elle-même qui découle de principes fondamentaux, la libre concurrence, la liberté d'entreprendre. Pour autant, le Code du commerce applicable localement prévoit qu'on puisse réglementer certains produits, essentiellement des produits de première nécessité et de grande consommation. Et donc ça, c'est quelque chose qui est en place et sur lequel la Direction des affaires économiques veille, contrôle et sanctionne les opérateurs qui ne la respectent pas. Ce qui est important à relever aussi dans le dispositif qui existe au niveau de l'ANC, c'est tout ce qui est afférent à la transparence des prix. Ça aussi, c'est une réglementation qui est importante de relever, parce que c'est une réglementation qui est assez exceptionnelle, qui n'existe pas dans le code de commerce applicable au niveau national. C'est l'obligation pour les GMS, les grandes et moyennes surfaces, de nous transmettre régulièrement leurs prix. Et c'est ce qui a permis au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de mettre en place tout un système d'information pour justement amener de la transparence sur les prix et permettre aux consommateurs d'avoir une vision claire entre les différents opérateurs, entre l'offre qui existe, pour justement être un consommateur, une notion qui nous est chère, parce qu'à notre sens, c'est aussi au consommateur d'avoir un rôle important aussi.
Donc il y a des applications où les consommateurs peuvent comparer les prix éventuellement.
C'est le site web prix.nc, c'est l'application prix.nc, et aujourd'hui, il y a une volonté du gouvernement, hein, sous l'égide de Christopher Gigès, de vraiment mettre encore plus de moyens sur tout ce système d'information pour amener encore plus le pouvoir aux consommateurs.
Et vous avez des retours pour savoir si ces outils sont vraiment utilisés ?
Alors oui, on a eu des bons chiffres en termes de fréquentation au moment du lancement de l'application. On a eu des milliers de followers. On a encore aujourd'hui régulièrement des pics de fréquentation au moment où on sort des études bien particulières sur des thématiques bien resserrées comme le cartable de la rentrée, comme des sujets voilà, où c'est des rendez-vous un peu chaque année. Après, l'objectif aujourd'hui, vraiment, il est vraiment de monter en intensité sur ces outils, faire en sorte qu'il y ait une forte imprégnation auprès des consommateurs pour que justement ça permette de tirer les prix vers le bas, puisque l'idée étant que les opérateurs voient leur positionnement sur ces outils et essayent d'être le mieux placé possible.
Alors, la volonté commune est partagée par tout le monde, je l'imagine, c'est évidemment de faire en sorte que les prix baissent. On a vu que la structure de ces prix faisait rentrer un certain nombre de facteurs. Stéphane Retterer, sur quels facteurs il est le plus facile de jouer aujourd'hui, peut-être, pour voir les choses changer ? Quelles sont les portes d'entrée, en quelque sorte, les plus simples pour travailler la question de la structure des prix et éventuellement les faire baisser ?
Vaste question. Non, je vais vous en donner deux. Un relève plutôt de la gouvernance ou de la stratégie gouvernementale, je dirais, accompagnée par l'autorité de la concurrence. C'est-à-dire que, comme dit le directeur, on a des moyens juridiques qui, à mon sens, n'ont pas totalement été utilisés. Je vais en citer un qui pourrait entrer dans la stratégie. Donc on a le prix.nc, mais à côté de la réglementation, c'est l'article qui vient avant, on a un comité de l'Observatoire des prix et des marges. L'avantage, c'est un comité qui existe et qui permettrait d'avoir un calcul des prix et des marges dans certains secteurs. On en prendrait deux. Le secteur agricole, prix des marges, le secteur produit, et les produits de grande consommation, plutôt distribution. Ça, c'est quelque chose qui pourrait être facilement activé avec une stratégie assez précise du gouvernement. On pourrait très bien voir un partenariat, j'ai envie de dire, je l'annonce à RRB, hein, mais un partenariat DAE-ACNC, pour pouvoir, il faut une stratégie derrière, hein, politique claire, pour pouvoir intervenir sur certains secteurs, avoir une vision très très claire des prix et des marges sur certains produits, et pas de manière générale, hein, sur certains produits identifiés ensemble, et puis derrière, il faut intervenir. Ça peut intervenir, on peut intervenir, il y a un article 411-3 par un aspect réglementaire, ça peut être par un arrêté, sous avis de l'autorité de la concurrence. Il y a des moyens pour le faire. Et nous, on peut aussi intervenir par nous-mêmes. Donc ça, c'est une réponse stratégique. Après, sur les points sur lesquels on peut intervenir, comme disait mon collègue, les intermédiaires, on a une multitude, on le sait, une multitude de verrous sur lesquels, ou de leviers sur lesquels on peut activer. Ça va du transport, en passant par la multitude des intermédiaires, sur la fiscalité, sur le droit à la concurrence, sur certains aspects du droit de la consommation, c'est multiple. Et c'est cette multitude de petites interventions qui permettra de faire baisser les prix. Il n'y a pas de remède miracle, mais c'est une multitude de petites interventions.
Lorsque vous calculez et vous faites l'indice des prix et l'indice des mesures à analyser, est-ce que vous analysez les raisons d'augmentation ou de baisse de certains prix ? C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la structure des prix, on l'a bien compris, il y a plusieurs facteurs. Est-ce que vous allez chercher les facteurs qui conduisent à l'augmentation ou à la baisse des prix ?
Pas ce travail d'analyse aussi fin que peuvent faire l'autorité de la concurrence ou la DAE. Nous, en fait, on se contente de contextualiser. Par exemple, dernièrement, on a eu une augmentation du prix des légumes. Eh bien, on sait que c'est dû à des conditions climatiques. C'est souvent ça qu'on va regarder. Après, bien évidemment, on regarde si la taxe sur le sucre va se traduire dans nos relevés par une augmentation. Donc, on se contente de contextualiser les prix.
John Choupil, comment réagissez à ce que dit Stéphane Retterer, dans un partenariat peut-être plus proche et travailler sur des sujets très précis, si j'ai bien compris.
Mon membre du gouvernement serait plus compétent pour parler, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il a déjà annoncé. Hein. Il y a une volonté forte de sa part de faire monter en puissance le rôle la production du comité de l'Observatoire des prix et des marges.
Alors, vous dites qu'il existe, mais il existe vraiment ? Il existe sur le papier ? Il est actif
Alors, il existe et il a vocation à
exister. exister vraiment.
À être plus actif, effectivement. Il y a une composition qui associe les partenaires sociaux, le politique. Il y a un texte aujourd'hui qui vise à y ajouter comme membre l'autorité de la concurrence. Donc, effectivement, c'est un outil qui peut-être n'a pas été assez utilisé par le passé, mais il y a une volonté de l'exécutif en place de vraiment lui redonner toute sa noblesse et vraiment faire en sorte qu'il puisse produire ce qu'on attend de lui. Donc voilà ces fameuses études sur les marges. Après, comme l'évoquait le président de l'autorité, c'est multifactoriel, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Le membre du gouvernement organise prochainement aussi un séminaire sur la fiscalité, puisqu'on sait que voilà, on évoquait la taxe sucre, la redevance copie privée, l'éco-participation, un certain nombre de redevances et de taxes qui sont intervenues. Il y a même des réflexions celle-là, elle n'a pas été adoptée, mais sur la redevance sur l'eau, ça, c'est des sujets qui ont vocation à, voilà, dans la structure du prix, à avoir un impact inflationniste. Donc, c'est une réflexion globale qui mêle tant la réflexion sur le niveau des salaires qu'évoquait M. Coulson tout à l'heure, que la réflexion sur chaque composante de la structure du prix. Donc, des marges, en passant par la fiscalité, en passant par le coût du travail. Donc,
oui, Stéphane Rotterin.
Juste pour dire que le comité de l'Observatoire des prix et des marges, je me suis permis d'en parler parce que Christopher Gigès à la station N a annoncé, publiquement qu'il allait en prendre la présidence. Oui. Donc voilà, on profite de surfer sur la
vague. Sur l'annonce. Christophe Coulson.
Je vais en dire un petit mot aussi. Hein.
Ça vous avez l'air intéressé.
On est plus qu'intéressé puisqu'on est aussi un peu à l'origine de cet observatoire et ils ont été très prudents l'un comme l'autre, mais moi je mets toujours les pieds dans le plat. Hein. Ça fait plus d'un an qu'ils ne s'est pas réunis. Ça fait plus d'un an qu'on réclame au gouvernement la tenue de réunions pour qu'on puisse discuter effectivement de tous ces sujets. Et je suis ravi d'avoir entendu ce qu'a dit Christopher Gigès, qui souhaite qu'on le réunisse au plus vite et qu'on se saisisse des différents sujets. C'est relativement important.
Stéphane Rotterer.
Juste peut-être un dernier mot. Allez-y. Pour dire que, bon, vous savez, je suis là depuis un an et demi, ça fait un an et demi que je le demande, mais au-delà de ça, ça a été une demande aussi conjointe, puisque la Chambre de l'agriculture s'est associée à l'autorité de la concurrence pour le demander, justement pour qu'on puisse ventiler sur des produits agricoles et des produits de grande consommation. Donc après, il y aura une stratégie qui sera décidée. On est ravis d'avoir entendu la décision de Christopher Gigès sur ce sujet-là.
Oui, je crois que c'est important sur l'agriculture parce que on a tous des exemples les uns et les autres. Il y a peut-être du ressenti, mais en tout cas, ce qu'on sait nous, c'est que les grossistes se font beaucoup de marge, pas sur le dos des agriculteurs. Et on avait remarqué à plusieurs fois. Dans les grandes surfaces, lorsqu'il y a l'affichage des prix, parce qu'il est devenu obligatoire aussi.
L'affichage du prix producteur et ça, évidemment le prix de vente après.
En fait, on s'était rendu compte en menant un petit peu nos petites enquêtes que parfois il y avait de l'abus et que les prix affichés, notamment au prix à l'agriculteur, ne reflétaient pas du tout la vérité. Mmh. Et bien évidemment, dans un objectif d'avoir des marges plus importantes. Donc, je crois qu'il est nécessaire qu'on refasse ce travail et qu'on soit plus correct avec les consommateurs.
Mais là, la DAE agit quand il y a des irrégularités, John Chopitz.
Je me doutais qu'il fallait que j'intervienne sur le sujet.
Ouais, ça, c'est...
Alors, non, en fait, déjà, notez que dans la répartition des compétences entre les directions, il y a, sur ces sujets-là, les fruits et légumes, il y a Davar et l'Agence Rurale, qui, je le rappelle, est la fusion de l'APICAN et de l'ERPA. L'établissement de régulation des prix agricoles. Donc oui, pour autant, on a un regard, puisqu'on est censé aussi sanctionner et contrôler. Donc l'enjeu qui est évoqué par M. Coulson, c'est vraiment la question de la traçabilité. C'est-à-dire le prix bord de champ jusqu'au prix détaillant. Il y a un vrai sujet, il y a une difficulté vraiment à aller vraiment tirer le vrai du faux. Et je pense que oui, ça sera typiquement, et le président Rotterer l'a évoqué avec une collaboration de la KPNC, ça sera typiquement un sujet sur lequel aura vocation à se pencher le comité de l'Observatoire des prix et des marges.
Mmh. Élise Desmazures, entre ce petit débat qui revient régulièrement, hein, parce que même quand on annonce que les prix à la consommation sont plutôt en baisse, alors généralement c'est pas violent, hein, c'est 0,1%, 0,2% maximum, les gens disent oui, mais moi quand je fais mes courses, ça continue à augmenter. Donc quelle est comment prendre la mesure entre la réalité des augmentations ou non et le sentiment de voir la vie augmenter en permanence?
Oui, en fait, il y a plusieurs questions derrière ça. Il y a déjà le fait que l'indice des prix, il représente une structure de consommation moyenne qui représente ni la vôtre ni la mienne, parce qu'on a tous notre propre structure de consommation. Donc déjà, il faut voir que c'est un indice qui est général, comme son nom l'indique. Et justement, parce qu'il est général, il prend en compte aussi toute une série de prix que nous, on ne va pas forcément intégrer. Par exemple, ce qu'on va surtout observer, c'est le prix du caddie, voire de certains fruits et légumes qui, pour le coup, connaissent des fortes fluctuations. Alors que derrière l'indice des prix, il y a aussi tous les prix des services. Donc là, par exemple, ce qu'on a vu très récemment, c'est l'augmentation forte de l'alimentation, mais également des prix des transports en commun. Donc voilà, c'est tout un ensemble de produits qui sont concernés. Et au niveau de l'Institut de la Statistique, on était bien conscient du fait qu'il y avait une partie de la population, par exemple, qui ne voyageait pas par avion, etc., donc qui n'était pas encore moins concernée par la représentativité de l'indice des prix. Et donc, on a sorti notre fameux indice modeste qui représente la consommation des 20% les moins riches de la population calédonienne. Et ce qu'on constate, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils subissent 1% d'inflation en plus que la moyenne des Calédoniens.
Cet indicateur-là a été mis en place il y a quelques mois seulement.
Non, ça fait deux ans.
Ça fait deux ans, au moins.
Que c'est mis en place, oui.
Alors, lorsqu'on parle des prix, ce sont souvent les intermédiaires qui sont ciblés. On l'a évoqué, il y a des grossistes, il y a d'autres intermédiaires. On voit que les circuits courts ont de plus en plus le vent en poupe parce que, justement, ces intermédiaires n'existent plus. Est-ce qu'on peut s'en passer? Est-ce qu'on peut organiser les choses différemment? Comment regarder ce dossier, Christophe Coulson?
Je ne pense pas qu'il faille s'en passer parce que c'est quand même de l'emploi. Je veux dire, derrière, il y a une économie. Mais par contre, j'ai bien entendu John qui disait que la réglementation, il fallait éviter de passer par la réglementation. Mais en tout cas, il faut trouver un système pour contrôler et de manière à éviter les dérapages au niveau des prix. Vous savez, en ce moment, on sait tous qu'il y a de la pénurie au niveau de la salade, des tomates, etc., à cause de la météo. Et on avait aussi remarqué à l'époque que quand les grossistes allaient acheter chez nos voisins en Australie, ils n'allaient pas forcément acheter les légumes les moins chers. Ils prenaient bien, au contraire, ils prenaient les légumes les plus chers pour se dégager une marge plus importante. On avait souhaité aussi que soient mis en place différentes catégories de fruits et légumes et avec des prix en fonction de la qualité des légumes. Ça, malheureusement, on ne l'a pas vu. Ça ne s'est jamais mis en place. On avait souhaité le faire aussi sur la viande, au niveau des boucheries, différentes qualités de viande avec des prix au kilo différents pour que toutes les catégories de population puissent accéder en fonction de leurs revenus. Et ça, malheureusement, on ne l'a pas vu aussi. Donc, il y a encore des choses à faire à ce niveau-là.
Oui, John Chopit.
Oui, sur les grossistes, c'est pas mon rôle, mais de défendre une profession ou une autre, mais ils ont un intérêt. Quand on pense grossistes, il faut voir que à leur niveau, ils gèrent des stocks, ils ont un rôle dans la chaîne de distribution. Quand on pense aux GMS, bien souvent, elles, des fois même, elles ont leur propre grossiste. GMS, je rappelle, grandes moyennes de surface. Et elles ont leur propre grossiste, leur propre centrale qui font qu'elles s'appuient dessus et elles sont autonomes. La plupart des petits commerces ne pourraient jamais gérer toutes les marchandises qu'ils ont besoin s'il n'y avait pas un grossiste et qui aussi assure au niveau de l'approvisionnement sur tout le territoire, puisqu'il n'y a pas des GMS dans chaque coin de la Calédonie. Donc après, comme l'évoquait Monsieur Coulson, mais c'est vrai que j'en reviens à l'importance du CODPM, le comité de l'observatoire, c'est vraiment d'aller voir après sur la structure de prix, si vraiment à chaque niveau il n'y a pas d'abus. Mais c'est vrai que les grossistes, si demain ils ont un intérêt dans la chaîne de distribution, il y a beaucoup de commerces qui peuvent exister, qui peuvent exister, parce que derrière, ils peuvent s'habiller sur des grossistes et qui ne peuvent pas eux-mêmes, à leur niveau, gérer tout l'approvisionnement de nombre de références. Donc, Bon, c'était juste cette précision que je souhaitais apporter.
Quand on parle des GMS, les grandes et moyennes surfaces, hein, on sait que, en raison des émeutes du mois de mai de l'an dernier, il y a un certain nombre de magasins qui n'existent plus aujourd'hui. Est-ce que ça a joué, Élise Desmazures, selon vous, sur la manière dont les prix ont évolué les mois suivants?
Alors ça, on n'a pas trop d'idées. Ce qu'on a constaté, c'est qu'effectivement, il y avait par exemple des marques habituelles qui avaient disparu des rayons, avec du coup une tendance à la hausse, tout simplement parce qu'on ne trouvait pas ces produits habituels. Par contre, on n'a pas d'idée de l'impact que ça a pu avoir sur les prix, en tout cas au niveau de l'Institut de la Statistique.
Alors, l'impact sur les prix, pour que les prix puissent se jouer, on imagine que la concurrence est un moteur important. Est-ce qu'elle s'exerce, Stéphane Reuterer, cette concurrence sur tout le panel de la structure des prix?
Alors, disons que le rôle d'une autorité de la concurrence, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de monopole, de pouvoir de marché sur un marché, donc de permettre aux entreprises d'accéder au marché pour créer de la compétitivité, de la concurrence. Et donc, évidemment, au final, ça a entraîné des baisses de prix. Donc, ça, c'est le rôle de l'autorité de la concurrence. Mais l'autorité de la concurrence, elle est limitée par ses compétences. Et ses compétences sont essentiellement les grosses structures. C'est-à-dire que nous, notre pouvoir d'intervention, c'est essentiellement à travers ce qu'on appelle l'abus de position dominante. Une grosse entreprise a un pouvoir de marché, elle va s'en servir pour avoir des prix très élevés. Donc là, on peut intervenir. Mais c'est essentiellement notre seul... Après, on peut intervenir comme conseiller du gouvernement pour modifier les réglementations, mais c'est autre chose. Ce n'est pas une compétence directe. Après, c'est le gouvernement qui va prendre une réglementation ou modifier une réglementation. Nous, notre intervention, elle est là. Alors, j'en profite d'être à votre... votre radio pour annoncer encore quelque chose, hein. et devant le directeur de l'ADM, mais il le sait très bien.
Parce que, oui, il a un peu peur là quand même.
Oui, oui, non, mais il le sait très bien puisqu'il connaît mes demandes depuis un an et demi. Non, il y a une loi de pays qui est en cours, qui est une loi de pays concurrence. Cette loi de pays concurrence va notamment donner deux pouvoirs particuliers affichés à l'autorité de la concurrence. J'en parle parce que ça répond en partie à votre question sur notre pouvoir. Un, c'est de pouvoir, dans le cas de ces abus de position dominante, de ces positions dominantes dans des grandes entreprises, des grands distributeurs, éventuellement des grossistes importants, de pouvoir vérifier, à travers la structure des prix, si ces prix ne sont pas tellement élevés qu'on pourrait les caractériser d'excessifs. C'est une jurisprudence classique qui existe en droit européen, en droit de l'Union européenne, qui a été mis en place par l'autorité de la concurrence française sur deux ou trois décisions à partir de, notamment en 2012, à partir de 2012, voilà. Donc ça va être un pouvoir qui va être découlé de l'adoption de cette loi de pays d'ici quelques mois, hein, puisque c'est dans les tuyaux auprès du Congrès. Et il y a un deuxième pouvoir qui est particulièrement important, et c'est pour ça que je parlais de coopération avec la DAE, parce que c'est intéressant, c'est que à la fois le gouvernement, comme l'autorité de la concurrence, et ça va être intégré dans ce pouvoir, va pouvoir lutter contre les dysfonctionnements de marché. Dans les dysfonctionnements de marché, ça demande beaucoup de travail, mais ça, on peut être très, très, très opérationnel. C'est-à-dire, concrètement, lorsqu'on va avoir des prix particulièrement élevés, on va pouvoir intervenir, soit la DAE, soit l'autorité de la concurrence, pour dire, oulala, là, votre ratio, taux de rentabilité, il est particulièrement élevé, c'est étonnant. On va le vérifier, hein, et ensuite, en fonction de ça, on va dire à l'entreprise, il nous semble que vos prix, là, sont particulièrement élevés. L'entreprise a deux possibilités. Soit elle dit, allez vous faire voir, excusez-moi, soit, oui, vous avez raison, je vais faire des engagements, et voilà.
Mais là, il n'y a aucune contrainte, a priori, pour ces entreprises.
Il n'y a aucune contrainte. Ouais. Sauf que si nous, on va jusqu'au bout de la procédure, on le qualifie d'abus de position dominante. Et donc, ça aboutit à une sanction.
Qu'est-ce que ça vous inspire, Christophe Poulson?
Écoutez... C'est une très bonne chose. Maintenant, j'attends de voir à quelle vitesse ça va être mis en place et comment ça va être utilisé. Ça, à partir du moment où ça va générer du positif pour les consommateurs, on ne peut que être favorable à ce genre de dispositif, bien évidemment.
Est-ce que vous êtes déjà au travail pour intégrer ces choses-là, John Choupit?
Oui, il y a une réflexion. La LP concurrence, on l'a travaillé de concert. D'ailleurs, on en rediscute encore juste après l'émission du projet de texte. Donc oui, il y a une vocation à tendre vers ce dispositif-là, à produire des réglementations qui permettent justement d'améliorer notre politique publique en matière de lutte contre la vie chère. Donc, et ça, comme ça a été évoqué tout à l'heure, c'est ce qui a été annoncé encore dernièrement par le membre du gouvernement, Christopher Gigès, lors du dernier séminaire. Donc oui, on y travaille et on continue à travailler. Il y a toute une stratégie qui est en œuvre et qui sera prochainement présentée aux Calédoniens.
Alors évidemment, les prix évoluent en fonction des types de produits. On l'a dit, vous l'avez rappelé, les produits issus de l'agriculture fluctuent en fonction des saisons, des aléas météo, etc. Puis il y a d'autres prix qui ne sont pas liés à ça. Élise Desmazures, est-ce que en effectuant régulièrement justement une analyse des prix et de leur évolution, vous savez les secteurs sur lesquels les choses ont le plus augmenté ou les choses n'augmentent pas plus? Enfin, je veux dire, est-ce que les vêtements, par exemple, augmentent sur ce sont des produits qui, a priori, n'ont pas d'aléas climatiques, on ne sont pas soumis. Est-ce qu'il y a des produits qui augmentent plus que d'autres?
Pour ce qui est des produits manufacturés, on a plutôt une diminution des prix. Et là où on va constater des augmentations, c'est vraiment sur l'alimentation. Ce qu'on a vu dernièrement, c'est bien évidemment l'augmentation du prix de l'électricité. Et dans le même temps, si on reste sur le poste énergie, on a eu une diminution du prix des carburants, qui manifestement ne va pas durer.
Non, mais... ça remonte au 1er mars, je vous le confirme.
Voilà, c'est vraiment des choses qui vont fluctuer et qui, dans certains cas, sont aussi des prix qui de l'inflation qui est importée de l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas non plus avoir la main sur tout, sur les carburants en particulier. Si on a une forte hausse du prix du baril, ça va forcément se répercuter.
Alors on attendra le mois de mars pour connaître les prix de février. Vous travaillez dessus, vous n'avez pas déjà des indicateurs
Si, je crois que c'est paru déjà dans les médias. Oui, pas sur février, sur les carburants, oui, on sait qu'on a une hausse qui va arriver au mois de mars.
Sur l'ensemble des prix, il faut attendre début mars.
Après, en février, c'est vrai que c'est un mois qui est important à observer parce que c'est celui de la rentrée scolaire. Oui. Voilà.
Et des soldes aussi, début des soldes.
Exactement, donc ce qu'on va observer, c'est certainement des augmentations sur le transport scolaire, sur les cantines, etc. Mais je n'ai pas de chiffres précis, on vient tout juste de finir les calculs.
Christophe Coulson, pour terminer, on a vu que le gouvernement avait donc lancé ce travail sur le pouvoir d'achat et la structure des prix où tous les acteurs autour de la table seront concernés. Qu'est-ce que vous en attendez de ce travail?
Écoutez, on va y participer, c'est sûr. Hein, et j'espère que ça va aboutir parce que on a entendu aussi de la bouche de Christopher Gigès qui voulait refaire une conférence sur les salaires. Je rappelle qu'il y en a eu une en 2023, qui n'a abouti à rien du tout. On s'est réunis pratiquement une journée sur le sujet. On a échangé, mais malheureusement, on n'a rien vu derrière. Donc, on prend note de tout ce qui est en train d'être proposé. On y participera et cette fois-ci, j'espère qu'on trouvera des solutions pour rassurer un peu la population.
Affaire à suivre. Merci en tout cas à tous les quatre d'être venus dans cette émission nous parler de ces questions de pouvoir d'achat et de structure des prix.